Ce matin, notre série sur la vie de Moïse, qui est aussi en réalité une série sur le peuple d'Israël à la même période. Après la menace de l'armée de Pharaon, après la faim, après la soif, c'est une nouvelle sorte d'épreuve à laquelle le peuple va devoir faire face dans le passage de ce matin. Cette épreuve, c'est un combat, une bataille. La première pour Israël depuis la sortie de l'Égypte, mais pas la dernière. Alors qu'ils sont encore à Réphidim, là où Dieu leur a donné de l'eau en abondance, Israël va être attaqué par les Amalécites. Ce texte, nous le trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, et je vais lire maintenant les versets 8 à 16. Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. À Réphidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse se faisaient lourdes, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Le Seigneur dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour qu'on s'en souvienne. Et dis bien à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse bâtit un autel et l'appela du nom d'Adonai Nissi, « Yahvé est mon étendard. » Il dit, « Parce qu'une main s'est levée contre le trône du Seigneur, il y aura guerre pour le Seigneur contre Amalek de génération en génération. » Comme les fois précédentes, je vous propose dans un premier temps de passer en revue les éléments du texte et puis ensuite nous considérerons quelques prolongements, quelques applications pour notre propre vie. Le peuple est donc encore à Réphidim quand Amalek vient lui faire la guerre. Les Amalécites étaient un peuple qui vivait dans une vaste zone qui couvrait tout le nord de la péninsule du mont Sinaï, au nord du Sinaï ou au sud du pays de Canaan, c'est comme vous voulez. Et ce peuple faisait partie, des descendants d'un petit-fils d'Ésaü, de qui ils tirent leur nom. Alors pourquoi les Amalécites ont-ils attaqué Israël? Il est possible qu'ils se soient sentis menacés par ce peuple nombreux qui s'approchait de leur territoire. Il est possible qu'ils aient voulu protéger leur territoire. Il est possible aussi qu'ils aient voulu simplement prendre le contrôle de ce nouvel oasis, abondance d'eau et donc une richesse sans prix dans le désert pour abreuver les gens et les troupeaux. Cependant, si ces deux théories sont plausibles, c'est vraisemblablement la suivante, celle du pillage, qui est sans doute celle qu'il faut retenir. Il y a d'autres textes où les Amalécites apparaissent dans la Bible et ils mènent souvent des incursions dans le pays de Canaan pour le piller. Notre texte ne dit pas grand-chose sur cette attaque initiale des Amalécites. Et c'est dans un autre livre de la Bible, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, les versets 17 à 19, c'est là que nous trouvons quelques précisions sur ce qui s'est passé ce jour-là. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait en chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Comment il est venu à ta rencontre en chemin pour attaquer ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient en dernier, alors que tu étais fatigué, épuisé, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'accordera le repos en te délivrant de tous les ennemis qui t'entourent dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, afin que tu en prennes possession, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. Que nous apprend ce passage? Il nous apprend que l'attaque des Amalécites contre Israël s'est faite par surprise. Elle a visé l'arrière-garde, là où se trouvaient ceux qui étaient un peu à la peine, ceux qui étaient à la traîne, ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient faibles. Il y a donc beaucoup de lâcheté dans cette attaque d'Amalek. D'ailleurs, cette lâcheté est certainement la raison pour laquelle Dieu, ou en partie, Dieu dit qu'il effacera le souvenir d'Amalek et il ordonne à Israël, une fois installé dans le pays promis, d'accomplir cela. Et on se souvient que le roi Saül sera sévèrement jugé pour ne pas avoir obéi à ce commandement d'effacer le souvenir d'Amalek. Il a failli dans cette mission et Dieu le reprendra pour cela. Et c'est finalement David qui l'accomplira. Le texte biblique ne dit pas quelles furent les pertes, mais il n'est sans doute pas faux d'imaginer que ce jour-là, il y a eu de lourdes pertes parmi le peuple d'Israël. Il n'était pas prêt à faire face à une attaque, et encore moins une attaque par surprise. De plus, ceux qui étaient à l'arrière, ceux qui étaient à la traîne, n'étaient certainement pas les plus vaillants, et ils n'ont certainement pas offert une très grande résistance ce jour-là à Amalek. Moïse va réagir très rapidement. Il va convoquer Josué qui apparaît dans le texte biblique, ici pour la première fois, Josué qui doit avoir environ 45 ans à cette époque, et à qui Moïse va confier la charge d'organiser les représailles, le combat, le jour suivant. C'est une mission tout sauf évidente, et le texte biblique souligne avec beaucoup de sobriété au verset 10 la belle obéissance et le bel esprit de service de Josué. Josué fit ce que Moïse lui avait dit. On ne peut pas faire plus concis, plus sobre pour dire ce bel esprit de service, d'humilité et d'obéissance de Josué. Un mot maintenant sur la stratégie. Elle est simple. Elle est définie à l'avance. En bas, dans la vallée, sur le champ de bataille, Josué et les guerriers d'Israël, faisant face à Amalek. En haut, sur la colline, Moïse, le bâton de Dieu à la main, soutenu par Aaron et Hur. Aaron est généralement plutôt bien connu, puisqu'il est le frère de Moïse. Hur l'est un petit peu moins. Alors il y a deux possibilités. Selon la tradition juive, c'est le mari de Myriam, la sœur de Moïse. Et puis selon 1 Chronique 2, mais peut-être qu'il ne s'agit pas du même Hur, il est le grand-père de Bézalel, celui qui sera l'architecte du tabernacle. C'est un des deux, mais on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, le jour suivant, le combat commence et Moïse, sur la colline, lève ses mains avec son bâton. Et quand Moïse a les mains levées, Israël est le plus fort. Quand Moïse se fatigue et que les bras redescendent, c'est Amalek qui prend le dessus. La bataille est donc rude et incertaine. Rien n'est gagné d'avance. Et voyant cela, Aaron et Hur commencent tout d'abord par placer une pierre sous Moïse, afin qu'il puisse s'asseoir, et puis chacun d'un côté, ils lui soutiennent les bras pour qu'il puisse les maintenir en l'air. On se souvient ici que Moïse a quand même plus de 80 ans. Et le combat va ainsi durer toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et avec l'aide d'Aaron et d'Hur, les mains de Moïse vont rester fermes. Et c'est ainsi que Josué et le peuple d'Israël vont remporter leur première bataille. Leur première bataille en combattant eux-mêmes. On se souvient de ce que Dieu avait fait avec l'armée de Pharaon, mais là, ce sont eux qui combattent. Et pour commémorer cet événement, Moïse, et ça c'était une pratique qui se faisait couramment, Moïse va bâtir un autel à cet endroit-là et il va lui donner le nom d'Adonai Nissi ou de Yahvé Nissi. Vous savez que les Juifs ont remplacé le nom de Yahvé dans la Bible par Adonai puisqu'ils ne voulaient pas le prononcer à la légère. Et on peut traduire ces deux mots, Adonai, Nissi, comme le Seigneur est ma bannière, ou le Seigneur est mon étendard. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi nommer l'autel de cette façon? Pour bien comprendre la signification du nom que Moïse va donner à cet autel, de ce nom commémoratif, il faut d'abord comprendre ce que signifie l'élévation des mains que Moïse a accompli tout au long de la journée. Quand on regarde la Bible, on se rend compte rapidement qu'élever les mains, c'était un symbole, c'était un geste que l'on faisait pour appeler Dieu à l'aide. C'était un geste que l'on faisait pour prier tout simplement et demander à Dieu de venir à notre secours et recevoir de lui la capacité d'accomplir quelque chose. C'est ainsi que l'on priait souvent en ces temps-là. C'est ainsi, par exemple, que Salomon va prier lors de la dédicace du temple. Il est là devant l'autel et il lève les mains, dit le texte. C'est ainsi que David, que les fils de Corée vont prier dans les psaumes. C'est ainsi encore que dans le Nouveau Testament, par exemple, nous lisons que Paul, écrivant à Timothée, lui dit « Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Tout cela nous amène à dire assez naturellement que ce que Moïse a fait pendant le combat, c'était une prière. Moïse a prié pendant le combat. On peut le dire dans l'autre sens. Pendant que le peuple combattait, Moïse priait. Et d'une certaine manière, nous pourrions dire ici que le combat était double. Dans la vallée, Josué et le peuple l'épée à la main. Et sur la colline, Moïse qui priait, qui intercédait, qui levait les mains vers Dieu, aidé par Hur et Aaron. Le combat est double. Mais si Israël gagne, si Israël est le plus fort, c'est premièrement parce que Dieu agit. Parce que Dieu a agi, parce qu'il répond à la prière de Moïse. Il ne s'agit aucunement de minimiser le génie militaire de Josué. La suite des récits nous montrera qu'il en avait du génie militaire. Il ne s'agit pas ici de minimiser la bravoure des guerriers d'Israël. mais de donner crédit au texte biblique qui nous fait clairement comprendre que la victoire est liée à l'intervention de Dieu par le biais de la prière de Moïse. Ce qui a été vraiment déterminant pour la victoire, c'est la prière. La stratégie était importante, mais la stratégie sans la prière, nous l'avons vu quand les bras redescendaient, Amalek prenait le dessus. La stratégie était importante, la force et la dextérité des soldats aussi, mais sans le Seigneur, Israël aurait été vaincu ce jour-là. Moïse a donc bâti un autel pour commémorer la victoire d'Israël sur Amalek, et il l'a appelé « Le Seigneur est ma bannière ». Qu'est-ce que le peuple devait comprendre ? Le nom de cet autel disait au peuple que Dieu leur avait donné la victoire, que Dieu les avait conduits à la victoire. Il était leur bannière, celui qui les rassemblait, celui qui les conduisait vers la victoire. Il l'avait été pendant le combat, et il le serait pendant tous les combats à venir. Le message était clair. La victoire est venue de Dieu, et elle viendra encore de Dieu, pour autant qu'il reste leur bannière, qu'il reste celui autour de qui ils se rallient, autour de qui ils se rassemblent, celui en qui ils mettent leur confiance. En tant que premier combat et première victoire, cet événement avait une importance capitale. Une importance capitale pour la suite des événements, et il était d'une certaine manière un petit peu comme le prototype, le modèle qu'Israël allait devoir suivre s'il voulait connaître la victoire. Suivre le Seigneur, leur bannière. Ce nom commémoratif était donc pédagogique pour le peuple. Il leur enseignait qu'il ne pourrait pas conquérir le pays promis par l'épée seulement. Il faudra que Dieu soit leur bannière. Il faudra que Dieu soit celui qui marche devant eux pour leur donner la victoire. Passons maintenant à quelques prolongements. La première leçon ou application que je voudrais tirer de notre texte découle de cette grande leçon dont nous venons de parler. Cependant, notre combat, si nous avons un combat à mener, n'est pas contre Amalek. Paul le dira, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Le combat que nous devons mener en tant que chrétiens est un combat spirituel. C'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi dans lequel la prière a une grande importance. Une importance toute particulière. Cet accent sur la prière dans le combat de la foi est bien présent dans le texte de Paul où il parle le plus du combat spirituel et où il en parle le mieux. C'est le fameux passage d'Éphésiens 6 que vous connaissez, où il est question des armes que Dieu met à notre disposition pour combattre ce combat de la foi. Le bon combat pour tenir bon au jour mauvais et pour remporter la victoire de la foi. Et dans ce passage d'Éphésiens 6, l'apôtre va aussi mentionner la prière. Il va la mentionner comme le complément indispensable à cet équipement que Dieu met à la disposition du chrétien pour qu'il remporte la victoire de la foi. J'aimerais lire avec vous ces quelques versets d'Éphésiens 6, les versets 13 à 18. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon, saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. En français, ça n'apparaît pas clairement, mais dans le grec, qui est la langue avec laquelle Paul a écrit ce texte d'Éphésiens, le verset 18, que j'ai un petit peu séparé du reste, apparaît en français comme une nouvelle phrase. Ce n'est absolument pas le cas dans le grec. C'est une proposition qui se rattache à ce qui précède et qui se rattache en particulier au verbe principal du paragraphe qui précède, qui se trouve au verset 14, c'est le verbe « tenir ferme ». Et cela nous amène tout naturellement, quand nous comprenons comment la phrase est construite, cela nous amène tout naturellement à comprendre et à dire que pour tenir ferme dans ce combat de la foi, il faut non seulement utiliser toutes les armes que Dieu met à notre disposition, mais il faut aussi relever ce défi de la prière. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Le combat de la foi ne se gagne pas sans la prière. Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Est-ce que nous sommes convaincus de cela au point de faire de la prière quelque chose d'important dans notre vie? Peut-être même une priorité dans notre vie? Quelqu'un disait un jour, pour souligner cette réalité, que de tous les soldats de la terre, le chrétien est le seul qui lutte et qui remporte la victoire à genoux. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est un combat spirituel. C'est un combat qui se remporte avec les armes, l'équipement dont parle Paul ici, mais qui se remporte aussi par la prière. Si la prière a été déterminante pour Israël dans l'issue du combat contre Amalek, elle l'est aussi toujours pour nous. Mais nous devons cependant veiller à ne pas faire de la prière une espèce de, comment dire, d'incantation, une espèce de formule magique qui va obligatoirement nous ouvrir les portes de la victoire, ou qui va obligatoirement nous ouvrir les portes de tout ce que nous demandons à Dieu. Si Dieu se plaît à répondre à nos prières, si Dieu se plaît à nous accorder parfois ce que nous lui demandons, il le fait toujours dans sa volonté. Ainsi, il peut arriver que nous remportions la victoire, spirituellement parlant, sans que Dieu nous accorde ce que nous avions demandé. Mais une chose est sûre, c'est que la victoire de la foi est acquise si Dieu est notre bannière, s'il est celui qui nous conduit, s'il est celui qui agit pour nous. La deuxième leçon ou application concerne encore notre vie de prière. En parlant de notre texte, je pose les questions suivantes. Pourquoi Moïse est-il monté sur la colline? Est-ce qu'il n'aurait pas pu rester proche de ses soldats, proche de son peuple, en bas dans la vallée? Pourquoi monter sur la colline? Et j'aimerais apporter deux éléments de réponse ici. Je passe sur l'aspect sécuritaire. Il était moins en danger, moins exposé, c'est une évidence. Le premier élément correspond au point d'application que j'aimerais développer maintenant. Moïse est monté sur la colline, premièrement, sans doute, parce que d'en haut, il pouvait voir tout ce qui se passait en bas. C'est sans doute pas beaucoup plus compliqué que ça. Il pouvait bien voir tout ce qui se passait sur le champ de bataille. Et cette vision globale, cette bonne vision globale, lui permettait de prier avec intelligence, de prier avec discernement, de prier en connaissance de cause. Et ce constat m'amène à tirer une leçon pour nous, pour notre vie de prière. Je crois que nous devons nous aussi chercher le plus possible à prier de manière précise, à prier en connaissance de cause, afin de pouvoir être précis et ne pas simplement faire de belles prières, mais tellement générales qu'elles en sont diluées. Prenons un exemple. C'est bien de prier « Seigneur, bénis les missionnaires du monde entier ». C'est pas mal. C'est bien de prier « Seigneur, bénis tous ceux qui souffrent ». Seigneur, bénis toutes les autorités de notre pays. Il n'y a rien de mal à prier comme ça. C'est bien. Mais quand on y réfléchit un peu, on se demande bien comment Dieu va faire pour exaucer des prières comme celle-là, des prières aussi générales que celle-là. Et fort de cette petite réflexion, il me semble bien plus efficace et bien plus pertinent d'être spécifique et précis dans nos prières. Alors bien sûr, pour cela, il faut connaître les besoins. Pour connaître les besoins, il faut que je m'informe. Pour m'informer, il faut que je prenne du temps. Et pour prendre du temps, il faut que j'aie compris l'importance de la prière, et surtout de la prière spécifique. Alors, plutôt que de prier pour tous les missionnaires du monde, nous pourrions peut-être être plus spécifiques et prier pour les besoins que Françoise Pedot nous a exposés dimanche dernier. Par exemple, nous pouvons aller au panneau d'aide et espoir, regarder la dernière lettre de nouvelles de Judica Eliana et prier pour les sujets précis qu'ils écrivent dans cette lettre de nouvelles pour leur mission au Niger. Si nous voulons voir des exaucements de prières précises, il nous faut apprendre à prier de manière précise. D'une certaine manière, il nous faut monter sur la colline, nous aussi, pour voir précisément les besoins qui ne manquent pas, et les moyens de nous en informer non plus d'ailleurs. Les réunions de quartier, par exemple, sont de bons endroits dans notre vie d'église, des endroits privilégiés pour que nous puissions partager des sujets précis qui nous concernent les uns et les autres, précis et personnels. Pour des sujets précis, il y a aussi la feuille du mois, il y a les panneaux d'affichage, les lettres de nouvelles, les circulaires, le lien fraternel, et on pourrait allonger très très largement, très copieusement cette liste. Si nous voulons voir des exaucements de prières précis, je suis convaincu que nous devons apprendre, continuer à apprendre à prier de manière précise, de manière éclairée, de manière informée, à l'instar de Moïse sur la montagne. Le deuxième élément de réponse aux questions que j'avais posées nous amène à ce troisième point. C'était l'interrogation du pourquoi de la prière sur la colline. Et j'en arrive donc à ce point sur la prière qui encourage. Et je suggère ici que Moïse est monté sur la colline, pas seulement pour voir le peuple, mais pour que le peuple puisse le voir, pour qu'il puisse être vu du peuple. Et j'imagine que cela devait être un grand et puissant encouragement pour le peuple que de voir Moïse sur la colline qui priait, qui levait les mains avec ce bâton de Dieu à la main, ce bâton synonyme de tant de prodiges depuis la sortie de l'Égypte. C'était un puissant encouragement que de voir que quand Moïse avait les mains levées, le peuple d'Israël remportait le combat. Est-ce qu'il y a des personnes dans l'Église pour lesquelles je prie régulièrement? Est-ce qu'il y a des personnes dans l'Église pour lesquelles je prie régulièrement ou de temps en temps et qui savent que je prie pour elles? Il y a une pudeur sur cette question. Il y a une pudeur qui est sage et légitime, qu'il faut avoir dans ce domaine. Mais il y a aussi une pudeur qui ne l'est pas, à mon sens. C'est un petit peu cette idée que c'est beaucoup plus spirituel si ça ne se sait pas. Hein, si, que ta main droite ne sache pas ce que fait la gauche. Alors on ne le dit surtout pas, parce que si on le dit, ça perd un peu de sa spiritualité. Bien sûr, il y a des dangers à éviter. Il y a le danger de l'orgueil, il y a le danger de chercher à être vu pour ce que l'on fait, etc., à être admiré ou que sais-je. Bien évidemment, tout ça est à rejeter. La prière ne doit jamais nous amener dans cet état d'esprit. Si nous prions avec cet état d'esprit, c'est que nous n'avons sans doute pas compris ce qu'est la prière. Ceci dit, il y a des situations, et je pense que nous l'avons tous expérimenté, où ce savoir porté par la prière de quelqu'un est un puissant réconfort, est un soutien extraordinaire, qui nous aide à persévérer, qui nous aide à avancer, qui nous aide à ne pas abandonner quand nous sommes dans une situation de difficulté. Et j'ai constaté personnellement qu'il ne faut pas chercher très loin ces situations. Généralement, elles se présentent d'elles-mêmes, tout simplement dans le cadre normal de la communion fraternelle. Si nous vivons pleinement et simplement la communion fraternelle, nous allons avoir kyriel d'opportunités de partager beaucoup de choses. Mais attention néanmoins ici aux promesses que l'on peut vite faire, qui sont faciles à faire et difficiles à tenir. On est parfois un peu démuni devant le partage des difficultés, devant le désarroi de l'autre. Et il est souvent un peu facile de s'engager, je vais prier pour toi. Parce que nous sommes touchés par la situation, et c'est très bien et c'est normal. Mais quand nous l'avons dit, nous devons le faire. Et il est souvent, je l'ai constaté, difficile de tenir la durée. Que notre oui soit oui. Et que Dieu nous accorde la grâce de toujours tenir nos engagements. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas en faire trop, les limiter, hein, et puis peut-être monter en puissance, mais ne visons pas trop haut dès le départ. Un dernier point que j'aimerais souligner et qui concerne l'importance du rôle d'Aaron et d'Our. Un rôle important parce que s'il n'avait pas été là, Moïse n'aurait pas pu aller au bout de son intercession pour le peuple. Et dans ce cas précis, c'est véritablement une victoire d'équipe que nous avons dans notre texte. Une victoire d'équipe avec ceux qui étaient dans la vallée et puis une victoire d'équipe avec ceux qui étaient sur la colline. Et j'aime à penser qu'il doit en être de même dans l'Église. Il devrait en être de même dans l'Église. Parce que nous avons tous besoin du soutien les uns des autres. Nous passons tous à un moment donné par un moment de moins bien, un coup de mou comme on dit. Nous connaissons tous le découragement. Nous sommes tous à tour de rôle dans une position similaire à celle de Moïse, où c'est finalement les autres qui nous portent dans la prière, par la prière. Loin de moi l'idée ce matin de culpabiliser qui que ce soit, parce que je suis pleinement avec vous dans tout ce que je dis. Mais je pose néanmoins une question. Y a-t-il au moins une personne pour laquelle je prie dans l'Église? Une en dehors du pasteur. Compte pas le pasteur. Si c'est le cas, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, j'espère pour tous, alors pourquoi ne pas monter en puissance ce matin? Pourquoi ne pas décider ce matin que plutôt que une, je vais en prendre deux, ou je vais peut-être en prendre trois? Et si ce n'est pas le cas, si je ne suis pas encore entré dans cette intercession, pourquoi ne pas décider ce matin de le faire? Pourquoi ne pas prendre la décision de ne pas quitter ce culte, ce local, avant d'avoir décidé que j'allais prendre le défi de l'intercession régulière? Mais il faut le faire de manière informée, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'il faudra aller parler avec la personne en question pour pouvoir prier cette semaine de manière précise. Peut-être même qu'il faudra faire connaissance avec la personne, parce que j'aimerais vous mettre au défi de ne pas seulement prier pour ce que vous connaissez bien, mais pourquoi pas de choisir volontairement quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ça sera l'occasion d'aller faire connaissance et puis de prier ensuite pour cette personne de manière éclairée. Tout ça, c'est sortir de sa zone de confort, n'est-ce pas? Parce que c'est tellement facile pour chacun de nous de saluer dimanche après dimanche les personnes que nous connaissons. C'est difficile de briser la glace, d'aller vers les autres. Mais c'est néanmoins le défi que je vous propose ce matin. Dans la vie en général et dans la vie chrétienne aussi, et donc dans la vie de l'Église, nous nous installons facilement dans nos habitudes. Alors les habitudes ont du bon, elles structurent, mais elles ont aussi du mauvais. Et le mauvais, c'est qu'elles nous endorment un petit peu, c'est qu'on est dans le ronron, dans une sorte de statu quo, on se contente des acquis. Voilà, c'est pas mal quand même, donc on bouge plus, c'est bien. C'est tellement plus confortable de rester dans notre zone de confort. Mais je suis persuadé que l'Église grandirait en maturité si nous relevions le défi de l'intercession, les uns pour les autres. Je suis persuadé que l'Église grandirait dans son accueil, parce que l'accueil, c'est d'abord l'accueil que nous avons les uns pour les autres, bien évidemment pour ceux qui viennent nous visiter, qui viennent de l'extérieur, mais c'est d'abord l'accueil les uns avec les autres. Je suis persuadé que nous grandirions dans l'amour pour le Seigneur et pour nos frères et nos sœurs en Christ, et que nous grandirions ainsi dans la volonté de Dieu pour nous. Quelqu'un, je ne sais pas son nom, je n'ai pas retrouvé le nom de cette citation, mais quelqu'un a dit que quand l'homme est à l'œuvre, ben c'est l'homme qui est à l'œuvre. Bon, voilà. Mais lorsque l'homme prie, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Voilà, c'est peut-être pas tout à fait les mots de la citation, mais je crois que c'est à peu près ça. Alors c'est un peu binaire, hein, comme compréhension des choses. C'est pas forcément toujours aussi simple que ça, mais il y a quand même dans cette vérité quelque chose de fondamental. Et c'est le caractère essentiel de la prière dans la vie du croyant et dans la vie de l'Église. Peut-être que vous connaissez ce personnage qui est mort depuis longtemps, Oswald Chambers, qui est très connu dans le monde anglophone, et qui disait un jour que la prière ne nous équipe pas pour faire de grandes choses. La prière est la grande chose que nous pouvons faire. Je travaillerai la traduction un petit peu mieux parce que ça sonne pas très bien en français quand même. En tout cas, c'est à méditer. Je ne prie pas pour accomplir de grandes choses. Quand je prie, en réalité, je fais une grande chose parce que je laisse Dieu être ma bannière et agir. Que le Seigneur nous accorde de marcher de progrès en progrès dans cette belle œuvre qu'est la prière. C'est fondamental et nous avons besoin de nous le redire régulièrement. De marcher en progrès derrière celui qui nous précède, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre berger et notre bannière. Amen. Je propose quelques instants de silence.